quatrième et dernière cassette. Et je continue ce partage concernant les trois paires X, Y et Z. Le père X, lui, m'accuse de science cosmique et ésotérique et de mettre en cause l'immuabilité de Dieu. Ayant été dans l'enseignement universitaire pendant des années, j'aime utiliser beaucoup de dessins, de comparaisons, de graphiques dans le but d'illustrer les exposés et surtout d'aider les élèves ou les auditeurs à mieux synthétiser et retenir la matière. On dit qu'une image vaut des milliers de mots et je recours souvent, je le reconnais, à des logos mnémotechniques comme des flèches, des anneaux, des satellites, des triangles, des images tirées de la nature et de la vie courante. C'est la pédagogie, si je ne m'abuse, des paraboles d'ailleurs. Le père X a dû s'imaginer que je comptais tirer de là des sources d'énergie quelconques ou je ne sais trop quoi. Son discernement en a fait rire ou pleurer de rage un grand nombre qui l'adulait jusque-là, mais beaucoup ont été ainsi malheureusement dupés d'indonnés. C'est incroyable. Au moment de la diffusion de son texte dans tous les évêchés, les maisons de renouveau chrétien, les monastères et les groupes de prière, un des évêques auxiliaires de Montréal, devenu maintenant mon nouvel archevêque, m'a dit spontanément, et je cite, « C'est vraiment bien salaud un texte comme ça. Tu dois lui répondre », a-t-il insisté. À mon tour, j'ai alors confié à cet évêque la pensée claire et nette qui avait jailli dans mon cœur au moment où j'ai pardonné et prié pour le bon Père X, dès que quelqu'un m'a fait part de l'existence du dit document en circulation. J'ai senti que l'Esprit du Seigneur m'interdisait de dire ou de faire quoi que ce soit. J'ai même compris, comme dans un chuchotement doux et intérieur, que d'ici 2 ans, le bon père X ne serait plus en poste de commande, que ce serait le début d'un bon ménage nécessaire en cette institution et une occasion de purification spirituelle à ne pas rater pour lui. J'ai donc partagé cette prémonition avec mon évêque. C'était en 88. Or, la suite des événements a tout confirmé. Quant au père Y, lui, son rapport d'autopsie comprend 9 pages dactylographiées, s'il vous plaît, avec un mot de présentation dans lequel il se donne même la peine de préciser, et je cite, « Il n'y a aucune étude rigoureuse de sa doctrine, la mienne, mais seulement des impressions. » Cette précision, une fois donnée, il procède à un abattage en règle. À le lire, je suis plus ou moins équilibré à cause de ma jeunesse, je suis fanfaron, hérétique, dominateur, etc. Je vous fais grâce du reste, tout le dictionnaire des synonymes de ce genre y passe. Malheureusement pour lui et heureusement pour moi, son écrit a été sévèrement désavoué par l'un des plus éminents et admirés membres de sa propre communauté religieuse. Je vous cite un extrait de cette lettre que j'ai sous les yeux. Parlant de l'écrit de son confrère à mon sujet, il dit, et je cite, « Ce document est superficiel et je dirais même, et il se donne la peine de l'écrire en lettres majuscules, injuste dans le jugement qu'il porte. Je connais au contraire, poursuit-il, des gens qui, inspirés par les enseignements de Mgr Mathieu, sous-entendu, montrent des fruits qui ne peuvent venir que d'un bon arbre. » Fin de la citation. Et je vois que le temps file, je laisse de côté le cas du bon père Z, qui est d'ailleurs de la même compagnie que le précédent. Et voilà, monsieur et madame sont servis. Vous venez de goûter à quelques mini-plats vinaigrés de la vie prophétique et pastorale. De telles attitudes doivent être pour chacun de nous non seulement des occasions en or pour comprendre, pardonner et aimer. Jésus a dit « Aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent » Matthieu 5, 44. Mais des occasions tout autant de nous laisser interpeller, car de telles bourdes ou bourbes de notre part pourraient peut-être nous menacer ou nous arriver. Comment des hommes de cette trempe, reconnus pourtant comme intelligents, instruits, expérimentés, dévoués et valables, influents même, peuvent-ils si soudainement déraper ou dérailler de la sorte? On sait d'expérience que lorsque les trains TGV, c'est-à-dire à très grande vitesse, déraillent, ils quittent la voie de façon spectaculaire. Mais ça nous laisse quand même songeurs quand de tels dérapages se produisent au cœur de notre propre famille, l'Église. Veux-veux pas, soit dit en rime, quand on voit de tels impairs chez des bons pères qu'on croyait experts, on s'y perd, c'est le cas de le dire. Quant à nous, je le redis, soyons très vigilants. Ne faisons jamais aux autres ce qu'on aime ou qu'on n'aimerait pas qu'ils nous fassent. Permettez-moi une petite taquinerie en passant. Quand me parviennent à l'occasion des échos de ce que certains de ces bons pères, de ces bonnes mères ou bons monseigneurs de l'archiconfrérie disent, écrivent ou font d'un peu malicieux à mon sujet, je laisse trotter mon imagination un brin et je me demande s'il existe ou non des pinsommes à faire au purgatoire, un peu comme on le faisait à l'école et au collège. Et si tel était le cas et que nos amis, en arrivant là-haut, se voyaient imposer ne serait-ce qu'une fois l'obligation de relire leurs textes ou de les recopier, ou de réentendre leurs propos, les pauvres, comme ils vont se tordre de douleur, à en mourir pratiquement une deuxième fois. Pour conclure cette dixième trouvaille, et donc mon tour guidé de l'archiconfrérie de la Sainte-Loupe, précisons qu'ils utilisent couramment deux tactiques peu sérieuses, naïves et enfantines à la vérité. Mais je tiens à les exposer ici, au cas où vous vous feriez piéger par mégarde. Leurs tactiques sont irritantes, mais il ne faut pas s'irriter. Elles sont provocantes, mais il ne faut pas nous laisser provoquer. À bon entendeur, salut. La première tactique favorite, c'est d'éviter de rencontrer là où les personnes concernées, de se renseigner à la source ou de vérifier ce qu'ils désirent dire ou faire afin de se garder une bonne marge d'imprécision et ainsi pouvoir beaucoup mieux s'exprimer à l'aise et, si cela tourne mal, pouvoir plaider alors ignorance des faits ou des personnes. Ce qu'ils oublient, puisque leur attitude est ainsi calculée et délibérée, leur comportement devient alors de l'ignorance crasse. Malgré tout cela, malgré leur ignorance, ils s'élancent à fond de train, accusent, jugent sévèrement, comme s'ils étaient sûrs d'eux-mêmes. La seconde des tactiques favorites de ces membres de l'archiconfrérie de la Sainte-Loupe consiste à vouloir rendre les autres responsables de tout ce que ceux et celles qui les entendent ou les écoutent sur cassette ou dans les sessions comprennent mal, appliquent de travers, en trop ou en trop peu. Et en partant de ces déviations chez les auditeurs et auditrices, ils et elles veulent nous faire sentir coupables et nous accuser d'erreur ou d'incompétence. Pourtant, eux et elles, comme moi, pour peu qu'on ait fait le moindrement de ministère, de prédication ou d'apostolat, doivent ou devraient normalement savoir qu'on peut aisément être fort mal interprété et mal appliqué. Certaines gens ont le don de défigurer en un rien de temps les plus beaux et les plus solides enseignements. Quand je croise une telle myopie, je suis toujours de prime abord surpris. Ne voulant en aucune manière leur rendre la monnaie de leur pièce, j'aurais le goût de dire à ces dames et messieurs de l'archiconfrérie, et plus particulièrement à ces trois bons pères X, Y et Z, d'être en paix. Je les assure que je n'imputerai pas à Jésus et à ses enseignements sur la charité et la justice le fait qu'eux-mêmes ou elles-mêmes ne semblent pas, du moins si on s'en fie aux apparences, les avoir compris et les avoir mis en pratique. Jésus ne pouvait faire plus ni mieux, et la faute n'est donc pas là chez l'enseignant. Et en terminant cette trouvaille, je dirais à la blague, à l'archiconfrérie de la Sainte-Loupe, on croit non pas au doctorat honoris causa, mais doloris causa, envers ceux qu'on cale ou qu'on vexe. Passons maintenant à la 11e trouvaille spirituelle. Devant cette situation, mes chers amis, et toute cette mer debout, ce qui m'a le plus surpris et déçu, ce n'est pas tant le comportement des diffamateurs ou des calomniateurs mensongers ou non repentants, car j'en ai vu si souvent et en si grand nombre depuis mon ordination. Mais ce qui m'a attristé, c'est surtout le nombre considérable, effarant même, de ces hommes et femmes en Église, souvent eux-mêmes en autorité, qui gobent si facilement tout cela, sans discernement, sans vérification, sans bénéfice du doute. Cela dénote chez nous à quel point nous sommes rendus, comme dans le reste du monde, friands du croustillant, du sensationnel, du mauvais sort jeté aux autres, du soi-disant potin à scandale. Et cela révèle en même temps notre inaptitude évidente tant au vrai discernement spirituel en soi qu'au respect de la vraie liberté spirituelle chez les autres. Il y en a lorsqu'ils entendent que leur évêque ou leur supérieur dénigre ou semble soupçonner un tel ou une telle, concluent immédiatement que ça doit être vrai. Normalement, un vrai chrétien, équipé de discernement spirituel et de liberté spirituelle vraie, devrait toujours pouvoir flairer, repérer aisément la calomnie, la médisance, le jugement téméraire, même ceux et qui sortent de la bouche d'un évêque, d'un prêtre ou d'un consacré. En s'adressant soi-même directement au bureau-chef, à l'Esprit du Seigneur, on pourrait savoir immédiatement ce qu'il en pense, le Seigneur, et ne pas tomber dans le piège. Face à la mer debout en cours, je vous le dis, je fais confiance à notre peuple québécois et canadien pour décanter peu à peu, dépolluer cette mer debout. Et ce sera un jour à la grande honte et confusion des délateurs et diffamateurs qui auront été à l'origine de cette malheureuse opération. Notre peuple, je le sais, a deux grandes qualités de fond: un gros bon sens pratique et une foi bien enracinée. Et quand on donnera la chance à ces deux qualités de remonter à la surface et de s'exprimer, elles donneront à nos gens une double et grande compétence à bien discerner. Enfin, la douzième trouvaille, une mer debout n'a pas que des inconvénients. On peut et doit en tirer moult bienfaits. Le plus grand bienfait d'une mer debout, celui en tous les cas que je savoure le plus, c'est de voir Dieu à l'œuvre pour tirer du bien et du bien à travers cette erreur grave et cette épreuve. C'est inimaginable. On comprend alors tout le sens et la portée admirable des paroles de Joseph trahi par ses frères lorsqu'au moment de leur pardonner, il dit ceci, et je cite Genèse 50, 19 à 21. « Ne craignez point, dit-il à ses frères, suis-je en effet à la place de Dieu? Vous avez voulu me faire du mal, Dieu a voulu en tirer du bien, afin de préserver aujourd'hui l'existence d'un peuple nombreux. Soyez sans crainte, désormais je prendrai soin de vous et de vos enfants. » Quels beaux exemples! Dieu tire du bien du mal et Joseph pardonne à 100%. Les deux exemples s'attisent mutuellement. Et je vous confie que j'ai fait mien depuis le début le comportement héroïque de Joseph et loué le Seigneur pour tout le bien qu'il tire sous nos yeux de cette épreuve jour après jour. Mais il y a de nombreux autres bienfaits secondaires qui jaillissent en cours de route de cette expérience de la mer debout. Comme, par exemple, dans la tempête, on voit et repère les arbres forts et bien enracinés spirituellement. On voit par ailleurs rompre ou perdre leurs fruits et leurs fleurs apparents. Chez les autant en emporte le vent spirituellement parlant. On voit que les masques tombent, on découvre davantage à qui on a affaire en Église. Les fidèles également peuvent beaucoup mieux évaluer leurs pasteurs, évêques et prêtres, discerner leurs dirigeants de mouvements dits de renouveau. Et enfin, on voit pointer de plus en plus, grâce à ces secousses, qui a réellement un cœur et un esprit nouveau au gré du Seigneur, et sur qui il semble compter le plus pour relancer spirituellement son Église. Ô Felix culpa, bienheureuse erreur donc, qui elle aussi nous procure tous ses bonheurs. Et voilà, mes chers amis, je vous ai présenté la corbeille des 12 beaux et bons fruits spirituels, cueillis grâce au grand jardinier céleste, à même le vécu bien vécu de cette double traversée des mers de boue et de sang. Admettez avec moi que ces fruits sont succulents et très variés. J'en rends grâce à Dieu. Bien simplement, je vous avouerai qu'il y a 4 ans, en 1987, quand la boue a commencé à être délayée par ses quelques frères et sœurs, j'étais bien loin de m'imaginer qu'on pouvait, ou plutôt que lui pouvait ou pourrait, tirer tant de bienfaits d'un tel mal. Et, en si peu de temps, à tous les points de vue, en moi et autour de moi, et à un rythme qui s'accélère de plus en plus. Soyez loués et remerciés, Père, Fils et Esprit-Saint bien-aimés. À la vérité, expérience faite, cette chance dans la vie me manquait. J'en ai tiré un enrichissement de grâce, de force, de lumière, de paix, de joie et d'aplomb incroyable. Deo gratia. Je pourrai donc maintenant continuer mon ministère de dépollueur de mer debout auprès des autres avec encore plus de force et de succès. Car, à l'empathie et aux convictions chrétiennes qui m'ont toujours animé jusqu'ici, je pourrais maintenant ajouter l'expertise du vécu bien vécu en lui et avec lui. Cette épreuve s'avère un des meilleurs engrais spirituels qui soient, tant pour les individus que pour les groupes. Tel le fumier, il est certes de mauvaise odeur, mais par ailleurs de bonne valeur. Je dis donc à tous mes frères et sœurs, victimes actuelles ou éventuelles de mer de boue et de sang, ne paniquez pas, persévérez, croyez et demandez qu'il reste à bord, lui qui commande au vent et à la tempête. Je vous le précise, si ça peut vous être utile, la grâce de martyr n'est livré que le jour du martyr. Jamais avant, pas même la veille. On ne peut donc pas se l'imaginer avant de l'avoir, et personne ne peut l'escompter d'avance. Mais je vous l'assure, ex experientia, elle vient toujours à temps et au fur et à mesure. Elle est puissante et suffisante, est toujours octroyée à quiconque la réclame ou l'acclame. Enfin, au risque de me répéter, disons que c'est vrai de vrai. On est infiniment mieux dans ces souliers de malmenés, d'éprouvés, d'incompris ou de persécutés, qu'on ne doit l'être en usant ses semelles à trahir, livrer et tenter d'éliminer ses frères et sœurs. Et encore une fois, Deo gratias, mille fois. Merci Seigneur. Et nous en arrivons à la sixième et dernière partie de notre schéma d'exposé. Malheureusement, un rapide coup d'œil sur le chronomètre nous montre que nous n'aurons pas le temps de nous y arrêter pour la peine. Je le regrette avec vous. Voici alors ce que nous allons faire. Je vous invite à lire ce qui est déjà inscrit sous vos yeux dans la table des matières, et nous allons convenir que ce chapitre deviendra la première partie de la prochaine série d'enseignements intitulée « Aimons-nous les uns les autres ». Série qui va de pair avec celle-ci et que nous enregistrerons très bientôt. Et le moment est venu, avant de tirer ma révérence, de tirer avec vous quelques conclusions. Permettez-moi d'abord, de tout cœur, de vous remercier pour votre présence aussi nombreuse et aussi assidue et sympathique. Vous aurez été aux premières loges les témoins oculaires et auditifs de ce dynamitage du scandale des scandales qu'est ce « mangeons-nous les uns les autres » marqué au sceau de judoka. Nul doute, et je tiens à le préciser, que cet enseignement que nous venons de proclamer risque de scandaliser tant les faibles au scandale facile que les sages et intelligents qui sont aussi des faibles en définitive, puisque leur suffisance camoufle souvent leur insuffisance. Ces frères et sœurs, de prime abord du moins, seront dans l'impossibilité de comprendre le vrai sens et la véritable portée de cette vigoureuse dénonciation du « mangeons-nous les uns les autres ». Ils persisteront à croire qu'il aurait mieux valu dissimuler encore cette plaie et redouteront que cette verte semence fraternelle ne vienne aggraver davantage la situation ou ne nuise à la réputation de l'Église. Bien, chers amis, je le redis à nouveau, ce n'est pas de gaieté de cœur que j'ai décidé de procéder sur ce thème. Mais après avoir prié, jeûné, consulté, discerné spirituellement, j'ai compris qu'il y avait là un cancer grave à identifier et à extirper, et que l'Église ne pourra être relancée et Vatican II complété qu'à ce prix. Qu'il fallait donc opérer de toute urgence, de façon drastique, et tenter le tout pour le tout. Personne jusqu'ici n'avait encore eu le courage de déclencher l'alerte, de sonner l'alarme en termes clairs et nets, avec une vigueur significative. Et si aujourd'hui je mets ma tête sur le billot, au sens propre et au sens figuré, croyez-le et croyez-moi bien, ce n'est ni par bravade, ni par vendetta, ou eu égard à ce que je traverse présentement, ni par souci de réconfort personnel, car je l'ai plus que jamais depuis 4 ans. Ce cri d'alarme, j'aurais déjà pu le pousser il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, ou 40 ans, à peine après 5 années d'ordination. Je le lance aujourd'hui au nom de tous mes frères et sœurs victimes depuis toujours en Église de ce « mangeons-nous scandaleux » et dont la majorité se trouve hélas sans voix, V-O-I-X, et sans voix, V-O-I-E, pour l'exprimer et s'en plaindre. Et je le fais aujourd'hui plutôt qu'hier ou demain parce que je sens que c'est maintenant son heure, avec un grand S, et son désir. Il y a quelque temps, aux Bréviaires, à l'office des lectures, en la fête patronale des Canadiens français, la Saint-Jean-Baptiste, on nous remettait sous les yeux un extrait du livre de Jérémie. C'est un passage bien connu, classique même, où Jérémie dit qu'il aurait bien aimé céder sa place à d'autres en tant que prophète. Il disait, et je cite, « Ô Seigneur Dieu, vois donc, je ne sais pas parler, je ne suis qu'un enfant. » Et le Seigneur reprend, « Ne dis pas, je ne suis qu'un enfant. Tu iras vers tous ceux à qui je t'enverrai. Tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne le crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, déclare le Seigneur. » Puis le Seigneur précise encore Jérémie, étendit la main et il me toucha la bouche et me dit, « Ainsi je mets dans ta bouche mes paroles. Sache que je te donne aujourd'hui autorité sur les peuples et les royaumes pour, notons-le bien, arracher et abattre, pour démolir et détruire, pour bâtir et planter. » Donc, et c'est important de le noter, le Seigneur lui-même convient qu'il faut parfois, pour mieux sauver son peuple, arracher, abattre, démolir et détruire ce qui nuit à son salut. Autrement, rien de nouveau et de bon à son goût ne pourra être planté et germé. La situation actuelle, nous en convenons tous, est à ce point pervertie et compromise qu'un véritable dynamitage spirituel préalable était requis. Une opération majeure s'imposait. Il faut en effet une réaction choc pour que le « mangeons-nous » cède la place à un retour significatif du « aimons-nous ». Le présent enseignement entend faire choc, sans pour autant choquer, les âmes et les cœurs ouverts. Mes bien chers frères et sœurs dans le Christ et en Église, le moment de vérité est arrivé. Le scandale des scandales est sous nos yeux. L'Église, qui devait renaître d'un élan nouveau avec Vatican II, continue à décliner, à s'entre-détruire, à se saborder par le tragique et scandaleux et fatal « mangeons-nous les uns les autres ». C'est tout le contraire de ce que le Christ nous a recommandé, et commandé même, au moment de son entretien suprême avec ses apôtres et dans sa prière ultime au Père. Jean chapitre 13 et 17. Comme on le sait, joignant les actes à la parole, le Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle, rappelle saint Paul aux Éphésiens 1, 3, 5 et 7. Il a voulu se la présenter à lui-même, splendide, sans tache ni ride, ni aucun défaut. Il a voulu son Église sainte et irréprochable. N'importe quelle nouvelle initiative, si heureuse et généreuse qu'elle soit concernant l'Église, est dorénavant, à toute fin pratique, vouée à la stérilité, tant et aussi longtemps que nous n'aurons pas, en tant que peuple de Dieu, eu le courage et le cran, et pris les moyens drastiques pour exorciser de l'Église ce contre-royaume de judoka. Se mangeons-nous les uns les autres, scandale des scandales actuels. Nous n'avons plus le droit d'attendre. À l'appel de Jésus et à son exemple, ensemble, à sa suite, nous devons assez aimer l'Église pour nous livrer pour elle, afin qu'elle redevienne, sans tache ni ride, ni aucun défaut sur les plans indispensables pour lesquels Jésus a donné sa vie, c'est-à-dire pour la vérité, l'amour et pour que nous soyons et demeurions libres. Avec lui, en lui et pour lui, la résurrection est toujours à notre portée. Que ceux et celles qui y croient le proclament, le réclament et le vivent. Et comme dit saint Jean, dans sa première épître 3:18, pas seulement en parole et de langue, mais en acte et dans la vérité. J'en appelle donc de tout mon cœur à tous ceux et celles qui ont exercé l'autorité et par malheur eu recours à de tels procédés fautifs. Il vous faut expier, réparer dès ici-bas. J'en appelle à tous ceux et celles qui en ont été les malheureuses victimes. Il vous faut comprendre avec le regard miséricordieux de Dieu. Il vous faut pardonner et prier pour ceux qui vous ont bousculé. J'en appelle à tous ceux et celles qui exercent l'autorité à l'heure actuelle. Et je vous dis bien fraternellement, examinons-nous sérieusement. Faisons bien attention et amendons-nous si nécessaire. J'en appelle à tous ceux et celles d'entre nous pour dire convertissons-nous et cessons d'agir ainsi. Et on comprendra aisément que j'en appelle d'une manière toute particulière, avec ma plus grande ferveur fraternelle, à mes frères et sœurs qui ont la moindre propension à l'un ou l'autre des 8 syndromes évoqués. Redisons-le, l'Église est sérieusement handicapée, toujours stérilisée, divisée et détruite par ceux et celles qui se laissent aller à devenir des diffamateurs, des délateurs, des éboueurs, des isaneurs, donc titulaires des 4 premiers syndromes, de même que par ceux et celles des 4 autres syndromes, les dominateurs, les sanhédrins, les inquisiteurs et les sableurs à outrance. Tenons-nous-le pour dit et fuyons au plus tôt ces syndromes, ces comportements qui, tels des volcans, crachent sur l'Église, cendrent, lavent, menaces et feux destructeurs. Maintenant, avant de prier ensemble, je vous invite à prendre connaissance avec moi de 2 textes bibliques qui vont nous interpeller, j'en suis sûr. Le premier a pour but de nous aider à activer la digestion de tout l'enseignement qui vient d'être proclamé sur le mangeons-nous. Le second texte, au contraire, veut nous ouvrir l'apéritif ou l'appétit envers l'enseignement qui sera proclamé d'ici quelques jours sur le aimons-nous. Passons d'abord au digestif pour le repas spirituel qui se termine. Ce premier texte est tiré du livre de l'Ecclésiastique, qu'on appelle maintenant le Siracide. C'est un des livres qu'on classe comme poétique et sapiential, donc rempli de sagesse. L'auteur de ce livre est Ben Sira, un juif très cultivé et pieux, un notable de Jérusalem. On le voit, on le sent, on le goûte, la sagesse qu'il prêche vient du Seigneur. L'extrait se trouve au chapitre 28 à compter du verset 13 et c'est intitulé « La mauvaise langue ». Je cite « Maudit soit le chuchoteur et le fourbe. Il a perdu bien des gens vivant en bonne entente. Les racontards d'un tiers en ont ébranlé beaucoup, les ont chassés de nation en nation. Ils ont démoli des villes fortes et abattu les maisons des grands. Les racontards d'un tiers ont fait répudier des femmes courageuses, les privant du fruit de leur labeur. Celui qui y prête attention ne trouvera plus de repos. Il ne pourra plus demeurer dans la tranquillité. Un coup de fouet laisse une meurtrissure, mais un coup de langue brise les os. Beaucoup sont tombés sous le tranchant de l'épée, mais moins que ceux qui sont tombés à cause de la langue. Heureux celui qui est à l'abri de ses atteintes, celui qui n'est pas exposé à sa fureur, celui qui n'a pas traîné son joug et qui n'a pas été attaché par ses liens. Car son joug est un joug de fer et ses chaînes des chaînes d'airain. La mort qu'elle inflige est une mort affreuse. » Et maintenant, l'autre texte, en guise d'apéritif cette fois à la prochaine série sur le « Aimons-nous les uns les autres », écoutons Jésus dans son entretien suprême avec ses apôtres dire « Mes petits-enfants, je suis avec vous, mais pour peu de temps. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. » Et si vous voulez, nous allons nous recueillir et prier ensemble en terminant. Frères et sœurs dans le Christ, prions avant de nous quitter. Père bien-aimé, toi qui nous as créés par amour, afin que dans ton amour infini, nous puissions vivre dans le bonheur et la paix. Comme tu dois être déçu profondément de nous, tes fils et tes filles de la terre. Quel fiasco de notre part! Nous t'en demandons pardon de tout notre être et par procuration, au nom de tout ton peuple. Ô Jésus, divin Sauveur, Maître de tes apôtres et disciples envoyés pour porter là où ta bonne nouvelle de salut jusqu'aux confins de la terre, comme tu dois être attristé par nos comportements de jalousie, nos rivalités et nos luttes fratricides. Quel scandale et quel contre-témoignage! À toi aussi, nous demandons sincèrement pardon. Et pour nous, et pour tous ceux et celles à qui tu avais pourtant confié le bien et le salut des âmes. Ô Esprit Saint, feu d'amour et de gloire, Toi qui es l'amour divin personnifié, l'extase d'amour du Père et du Fils, comme tu dois souffrir de toutes nos lenteurs et de nos froideurs dans la manière de t'écouter et de t'accueillir plus ou moins parfois. Infiniment pardon. Oh oui, Esprit d'amour et de gloire, viens changer nos esprits et nos cœurs, et au plus vite. Bien chère Maman Marie, vois tes enfants qui vivent dans le noir et ont les bleus. Aie pitié de notre désarroi actuel, non seulement dans le monde, mais tout autant en Église, où nos grandes orgues faussent si souvent, et chacun des instruments que nous sommes aurait tant besoin d'être raccordé. Pardon. Oui, mille fois pardon, de te décevoir et de te déshonorer ainsi, toi aussi. Bon Saint-Joseph, viens vite et ne nous abandonne jamais. Père, Fils et Esprit-Saint, voyez et entendez notre désaveu très sincère du « mangeons-nous » et notre cri d'aujourd'hui vers vous pour un retour irréversible à la pratique heureuse du « aimons-nous les uns les autres » à votre exemple et ressemblance. Vous avez toujours voulu pour nous une Église où l'Évangile est annoncé et pratiqué en contradiction avec l'esprit du monde. Donnez-nous par notre intercession fervente d'aujourd'hui, assez de lumière, de force et de courage pour combattre et résister jour après jour à tout ce qui, en nous, à travers nous ou au milieu de nous, risque le moindrement d'entraver la pratique exemplaire et héroïque même du commandement nouveau de Jésus. Nous vous en supplions de tout cœur. Et frères et sœurs, encore une fois, demandons-le, que l'amour, la joie et la paix du cœur du Père, en le Fils et en les feux de l'Esprit-Saint, soient toujours avec nous, et à cette fin, accueillons leur bénédiction trinitaire sur l'Église tout entière, ses chefs et nous-mêmes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia.